Vous écoutez On lit pour vous.
L'école Irénée Lucier, déjà victime de sa popularité. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 2 juin 2026 dans Le Devoir. Les enseignants et les parents d'élèves d'une école spécialisée de l'Est de Montréal, inaugurée il y a moins de 3 ans, sont inquiets. Le nombre d'élèves augmente rapidement dans cet établissement, au point de dépasser sa capacité d'accueil théorique. Une situation qui perturbe la qualité des services offerts et soulève des questions de sécurité, selon plusieurs intervenants joints par Le Devoir. C'est un cri d'alarme, lance le président du conseil d'établissement de l'école Irénée Lucier, Michel Bernier. Père d'un élève qui fréquente cette école, il se dit stupéfait que le Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM, n'ait pas su prévoir ce débordement. Attendue pendant une quinzaine d'années, l'école secondaire Irénée Lucier a été inaugurée en grande pompe à l'automne 2023. Elle a alors permis de regrouper sous un même toit des élèves de 12 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle modérée à sévère qui était jusqu'alors répartie dans 3 écoles de Montréal. L'école, située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et construite au coût de 77 millions, comptait alors 227 élèves, dont la majorité présente un trouble du spectre de l'autisme. L'établissement répondant à une demande croissante, le nombre d'élèves qu'elle accueille a grimpé depuis à 253 à la dernière année scolaire, sans compter quelques admissions qui ont eu lieu en cours d'année. Quant à la prochaine rentrée scolaire, une prévision émanant de la direction d'école et obtenue par Le Devoir faisait état, à la mi-mai, de 272 élèves qui pourraient fréquenter cette école en septembre 2026. L'actualité du jour, choisie et résumée pour vous tous les jours dans votre boîte courriel, voire plus d'infolettres. J'accepte de recevoir les communications par courriel du Devoir. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription au bas d'un de nos courriels. Politique de confidentialité. Une capacité dépassée. Or, le site web du CSSDM mentionne bien que ce bâtiment a été bâti pour accueillir jusqu'à 250 élèves, une donnée qui se trouve également dans les résultats d'une demande d'accès à l'information au ministère de l'Éducation réalisée l'an dernier concernant les nouvelles écoles construites au Québec. Joint par Le Devoir, le CSSDM n'a pas souhaité confirmer ni infirmer le nombre d'élèves que compte actuellement cette école, ni les données qu'on lui a fournies concernant la croissance notée depuis 2023 et celle prévue en 2027. Il est présentement inutile de citer des chiffres tant et aussi longtemps que le nombre d'élèves n'est pas stabilisé et confirmé. Nous recevons actuellement de nouvelles inscriptions, mais les départs ne sont souvent reçus qu'à une date proche de la rentrée ou peu après, note le CSSDM. Des données plus fiables sur le nombre d'élèves qu'accueillera cette école à la prochaine rentrée scolaire ne seront donc disponibles qu'en août, ajoute l'organisation. Cependant, que les prévisions de croissance du nombre d'élèves se concrétisent ou non à la prochaine rentrée scolaire, déjà cette année, c'est difficile, évoque la présidente de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal, APPM, Catherine Beauvais-Saint-Pierre. Nos écoles spécialisées sont des milieux où on a un taux de blessures très élevé, donc le nombre d'élèves vient jouer là-dedans, non seulement pour la sécurité du personnel, mais aussi pour les élèves eux-mêmes, ajoute-t-elle. Le document note que les répercussions de la croissance du nombre d'élèves sont déjà perceptibles entre les murs de l'établissement où de multiples agressions sont commises par des jeunes envers d'autres qui, pour la plupart, sont trop vulnérables pour se défendre ou se protéger de leur père. Trois enseignants de cette école qui se sont confiés au devoir sous le couvert de l'anonymat en raison du devoir de loyauté qu'ils ont envers leur employeur indiquent pour leur part avoir déjà constaté une diminution du nombre d'activités dans la cuisine de l'école ou à l'extérieur du bâtiment qui sont tenues avec les élèves, ces derniers étant trop nombreux pour assurer la tenue de celle-ci en toute sécurité. Ces activités sont pourtant essentielles pour aider les jeunes qui la fréquentent à développer leur autonomie. On passe à côté de la mission de l'école, déplore ainsi Michel Bernier. Manque d'espace. Certains locaux qui avaient une autre vocation ont d'ailleurs été convertis en classes additionnelles dans les dernières années. Or, devant l'augmentation attendue du nombre d'élèves l'an prochain, le personnel craint désormais que le CSSDM compense le manque d'espace disponible dans cette école par une augmentation des ratios d'élèves par classe, ce qui causerait de graves préjudices pour les élèves, mentionne la lettre qui a été transmise à la direction générale du SSDM. Or, les besoins de ces élèves-là sont grandissants, rappelle Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui craint que les enseignants soient moins en mesure de répondre à leurs besoins si la taille des classes augmente. Les trois enseignants joints plaident dans ce contexte pour la construction d'une annexe afin d'agrandir l'école Irénée Lucier, 3 ans après son inauguration. Le SSDM assure pour sa part qu'il respectera le nombre d'élèves par groupe prévu à la convention collective du personnel enseignant. Or, les ratios appliqués dans les classes d'Irénée Lucier ont historiquement été plus bas que ce qu'autorise la convention collective, d'où l'inquiétude de l'APPM. Le CSSDM est à l'écoute des préoccupations du personnel de l'école et veille absolument à la réussite des élèves et à la sécurité de l'ensemble de son personnel. L'école Irénée Lucier accueille des élèves dont les besoins sont très grands et qui méritent la plus grande attention. Toutes les décisions seront prises en prenant compte de cet état de fait, conclut l'organisation. C'était l'école Irénée Lucier, déjà victime de sa popularité. Un texte de Zachary Goudreau paru le 2 juin 2026 dans Le Devoir.
Dans la rubrique questions-réponses, référendum, qu'est-ce qui attend les Albertains et le reste du pays? Un texte d'Antoine Trépanier publié dans la presse du 23 mai 2026. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a annoncé que ses concitoyens se prononceraient en octobre prochain sur l'avenir de leur province au sein du Canada. Depuis, des voix s'élèvent pour dénoncer l'exercice. Un référendum pour décider si on organise un autre référendum. Ça sert à quoi? Première question. Pourquoi y aura-t-il un référendum en Alberta? Il y a un certain fonds autonomiste et séparatiste en Alberta qui a émergé particulièrement dans les années 1980 en raison de l'attitude du fédéral à l'égard de l'exploitation des ressources pétrolières de la province. Ce sentiment d'aliénation s'est exacerbé dans les dernières années, surtout après la pandémie de COVID-19. Des centaines de milliers d'Albertains se sont mobilisés pour organiser un référendum et faire de l'Alberta un pays. Ils sont quelque 300 000 à avoir signé une pétition pour tenir un référendum. Mais 400 000 autres Albertains ont, à l'inverse, signé une pétition pour que leur province reste dans le Canada. La première ministre, Danielle Smith, estime que dans ce contexte où 700 000 Albertains se sont ainsi exprimés, ce qui représente environ 25 % des électeurs de la province, il faut un référendum. Citation. Manifestement, ils veulent avoir ce débat, ils veulent voter là-dessus et ils veulent que ce soit réglé une fois pour toutes, a-t-elle expliqué. Fin de citation. Or, cette affirmation est contestée puisque ceux qui souhaitent rester dans le Canada voulaient plutôt un vote à l'Assemblée législative à ce sujet, pas un référendum. Et il y a 2 millions d'Albertains qui ne se sont pas prononcés. Citation, « J'étais parmi les 400 000 qui avaient signé la pétition du mouvement canadien pour toujours, et ce n'était pas pour un référendum. Ce que cherchaient les gens qui menaient la campagne était d'avoir un vote à la législature. » Fin de citation, affirme Nathalie Lachance, présidente de l'organisme de défense des Franco-Albertains, l'ACFA. Citation, « Comment l'information est présentée, c'est erroné », ajoute-t-elle. Quelle sera la question? En fait, il y a déjà 9 questions soumises à Élections Alberta pour le référendum d'octobre 2026. 5 d'entre elles portent sur l'immigration et les 4 autres sur le fédéralisme canadien. Par exemple, il y a des questions sur le processus de nomination des sénateurs et celui des juges. Mais la 10e question annoncée jeudi soir est la plus épineuse. Citation, l'Alberta doit-elle rester une province du Canada ou le gouvernement de l'Alberta doit-il entamer le processus juridique prévu par la Constitution canadienne pour tenir un référendum provincial contraignant sur la question de savoir si l'Alberta doit se séparer du Canada? Fin de citation. Bref, il s'agit d'un référendum pour déterminer s'il y aura un autre référendum. Citation, c'est une stratégie pour empêcher les séparatistes de perdre la tête. Malheureusement, elle produit l'effet inverse. Les séparatistes perdent la tête, et nous, les gens qui veulent rester dans le Canada, nous perdons aussi la tête. Avec cette question, Daniel Smith a réussi à froisser tout le monde, affirme Stephen Carter, autrefois stratège politique de l'ancienne première ministre albertaine Alison Redford. Qui veut d'un référendum? Les sondages placent l'option indépendantiste à environ 30 %. Plus de la moitié des membres du Parti conservateur uni au pouvoir en Alberta sont favorables à la séparation. C'est un ensemble d'électeurs très conservateurs, parfois conspirationnistes. Il s'agit dans bien des cas de partisans du mouvement MAGA du président américain Donald Trump. L'Alberta Prosperity Project est le principal groupe derrière l'initiative, mais ce n'est pas un parti politique. Citation, en Alberta, ce sont des groupes d'initiatives citoyennes qui se font entendre sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont aucune légitimité issue des urnes, et les petites formations politiques qui se disent indépendantistes apparaissent à peine dans les sondages, explique le politologue Frédéric Boily, professeur au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Dans une entrevue récente avec la presse, le leader séparatiste Mitch Sylvestre affirmait avoir découvert que, citation, « le Québec et l'Alberta ont beaucoup de choses en commun ». Fin de citation. Autre citation, « nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a un ordre de gouvernement de trop et que nous serions mieux à l'extérieur de la Confédération », a-t-il dit. Qui est contre? Selon divers sondages, environ 70 % des Albertains sont contre. L'opposition officielle, le Nouveau Parti démocratique, n'a aucune volonté d'indépendance et le gouvernement dit vouloir que l'Alberta continue de faire partie du Canada. Les communautés autochtones aussi s'opposent à la tenue d'un référendum. Citation, les séparatistes albertains ne comprennent pas vraiment comment la Confédération est censée fonctionner. Alors, étant les petits-fils de riches du Canada, on fait l'amour. Ellipse, c'est juste de la puérilité capricieuse. On en veut toujours plus. On est comme les fils de riches qui en veulent toujours plus, estime Stephen Carter, aujourd'hui président de la firme de conseil politique Decide Campaigns à Calgary. Les mouvements indépendantistes québécois et albertains se ressemblent-ils? Pas vraiment. La seule ressemblance importante est leur sentiment commun que le Canada ne fonctionne pas pour leurs provinces respectives. Au Québec, le mouvement indépendantiste est bien présent dans les institutions de la société civile, alors qu'en Alberta, c'est un mouvement qui vient d'une partie de la population. Citation, il y a quelques intellectuels qui en parlent, mais ce ne sont pas des gens très connus. La principale différence, et c'est une très grosse différence, c'est qu'au Québec, C'est porté par un parti politique établi qui a une légitimité dans les urnes, soutient Frédéric Boily. Comment se déroulera la campagne à venir? Les deux camps sont encore en train d'élaborer leur stratégie. Dans le camp pro-Canada, le groupe canadien pour toujours s'organise et attire des organismes communautaires. La première ministre Danielle Smith a annoncé son intention de faire campagne pour rester dans le Canada et sera sur la route tout l'été. Les indépendantistes, eux, pourraient bien s'organiser pour montrer la porte à celle qui est la chef du Parti conservateur uni pour qu'une question claire soit soumise d'entrée de jeu. Fin de ce texte question-réponse d'Antoine Trépanier, titré « Qu'est-ce qui attend les Albertains et le reste du pays? » en regard du référendum à venir en Alberta, texte publié dans la presse du 23 mai 2026.
L'arrosage des pelouses à Saint-Hyacinthe. Un texte de Sarah Champagne, paru le 8 juin 2026 dans La Presse. Les pelouses vont tirer sur le jaune cet été à Saint-Hyacinthe. Dans un geste sans précédent, la municipalité de la Montérégie a interdit d'arroser le gazon avec de l'eau de l'aqueduc jusqu'au 31 août 2026. Sans quoi, une bonne journée, il n'y aura plus suffisamment d'eau potable pour approvisionner tout le monde, prévient le maire. Il y a des limites à pomper l'eau de la rivière Yamaska, résume le maire André Beauregard. La mesure est en vigueur depuis le 1er juin 2026. Dans un avis public, l'administration de la ville de Saint-Hyacinthe explique à ses citoyens qu'une pelouse jaunie ou brunie n'est pas nécessairement morte. Elle est en dormance. La pelouse retrouvera sa couleur verte dans les 10 à 14 jours suivant la pluie, assure le service de l'environnement public. Joint entre deux réunions, le maire de la plus grande ville du territoire mascoutin explique que l'interdiction d'arroser s'étendait jusqu'à la fin juillet de l'été 2025. Sauf qu'une fois l'interdiction levée, les citoyens se sont mis à arroser à l'extrême. Dès le lendemain, la demande à l'aqueduc municipal d'eau potable a grimpé de 10 % pour atteindre un sommet de 1 187 712 mètres cubes d'eau distribuée. Notre prise d'eau dans la rivière était rendue à 80 % de sa capacité à pomper. Le seuil de pompage de l'eau à ne pas franchir est de 90 %. Après quoi, il faut fermer le robinet, dit le maire de Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Il faut économiser l'eau si on veut accueillir de nouveaux projets domiciliaires, notamment un projet de 600 unités résidentielles avec de nouvelles industries, explique M. Beauregard. La municipalité estime la consommation citoyenne sur son territoire à 156 litres par personne par jour. C'est moins que la moyenne provinciale résidentielle de 245 litres par personne par jour. En Ontario, la moyenne est moindre à environ 184 litres par jour. Afin de préserver les ressources, des inspecteurs vont patrouiller dans les rues cet été. Les récalcitrants s'exposent à des amendes allant de 500 jusqu'à 1000 $ en cas de récidive. La nouvelle directive est la suivante. Ne pas tondre son gazon trop court. La ville recommande une hauteur de 8 cm et tolère jusqu'à 14 cm. Ailleurs au Québec, les pelouses jaunies, dites éco-pelouses, se multiplient. La ville de Shawinigan a été pionnière en 2023 avec une interdiction totale d'arrosage du gazon avec de l'eau potable. Dans cette ville, comme à Saint-Hyacinthe, un programme de subvention est proposé à l'achat d'un baril de récupération de l'eau de pluie. Des municipalités voisines de Saint-Hyacinthe, notamment Saint-Dominique, près de Saint-Pie, interdisent, elles aussi, l'arrosage de pelouse. À Sherbrooke, il est permis d'arroser seulement un soir par semaine. Sur la couronne nord, notamment à Blainville, des patrouilleurs s'assurent que les gens ne nettoient pas leur stationnement avec de l'eau de l'aqueduc. Un faux sentiment d'abondance. Selon l'analyste de l'organisme de protection et de gestion responsable Eau Secours, Gabriel Roy-Grégoire, la population a un faux sentiment d'abondance de notre eau. Elle entrevoit un conflit de l'usage résidentiel et commercial. Nous saluons l'interdiction totale, dit-elle, surtout pour l'Estrie, pour le sud du Québec. Les pelouses sont un vieux modèle américain des années 1950. En même temps, il faudrait acquérir plus de données, se questionner. Nous demandons, d'une part, aux citoyens de réduire leur consommation pendant que nous ouvrons la porte à des commerces et à des industries numériques qui puisent énormément d'eau, fait remarquer l'experte en environnement. Le maire André Beauregard croit que l'interdiction d'arrosage de pelouse est bien accueillie, sauf par certains récalcitrants, des gens plus âgés, souvent, qui tiennent encore à avoir une pelouse comme sur un terrain de golf. À un moment donné, il faut arrêter de tenir pour acquise notre eau potable. C'est de l'or bleu. D'ailleurs, sur nos terrains municipaux, on a pratiquement cessé la tonte, sauf en bordure. C'est bon pour attirer les insectes pollinisateurs, comme les papillons monarques. Appel à l'économie d'eau à Montréal. À Montréal, la mairie a récemment lancé un appel à l'économie d'eau cet été. C'est que la détérioration imprévue d'une conduite d'eau alimentaire, le principal réservoir d'eau de la métropole, suscite l'inquiétude. Cette situation, qualifiée d'extraordinaire, touche 16 des 19 arrondissements. Seuls les secteurs de l'Ouest, soit Pierrefonds-Roxborough, Lachine et l'île Bizarre Sainte-Geneviève, sont épargnés. 6 villes liées sont concernées. Mont-Royal, Hampstead, Westmount, Côte-Saint-Luc, Montréal-Est et Montréal-Ouest. C'était « Fini l'arrosage des pelouses à Saint-Hyacinthe », un texte de Sarah Champagne, paru le 8 juin 2026 dans La Presse.
La relance de Bestard approuvée, une victoire pour Lac-Mégantic. Un texte de Simon Roberge, publié le 13 mai 2026 dans la Tribune. Le nouveau groupe d'actionnaires comprend les hommes d'affaires Mario Aubé et Mario Beaudoin, le fonds de solidarité FTQ, l'entreprise Causé, ainsi que les anciens employés Martin Tardif et Antonin Besnard-Forgette. On relance l'entreprise avec une équipe de gestion beaucoup plus petite, confirme Martin Tardif, petit-fils du fondateur de Bestar. On va rappeler et rencontrer graduellement les employés sur une période d'environ 2 mois. Ce sont donc 157 travailleurs syndiqués qui retrouveront leur emploi. L'usine avait fermé ses portes le 30 avril. C'est une victoire pour Lac-Mégantic et pour les meubles fabriqués au Québec, poursuit M. Tardif. C'est une super fierté de voir la compagnie continuer après toutes ces années et de pouvoir continuer à vendre des meubles Bestar. La visée du groupe est d'opérer seulement l'usine de Lac-Mégantic et ainsi assurer la rentabilité qui n'était plus au rendez-vous lorsque l'usine faisait partie du groupe E-Solutions Ameublement. La transaction autorisée ne comprend d'ailleurs que les installations de Lac-Mégantic. Ce qu'on ciblait dans le rachat, c'est que ça redevienne le Bestar de Lac-Mégantic, contrairement à la compagnie qui était beaucoup plus grande à l'époque de la création d'E-Solutions. Malgré la bonne nouvelle, M. Tardif est conscient que l'entreprise aura fort à faire. « On rentre dans un environnement hostile », résume-t-il. « On est très conscient que ça ne sera pas facile. On va solliciter l'aide des gouvernements pour qu'il y ait une protection pour le marché de la transformation du bois. Pour faciliter la relance de l'entreprise, les 157 syndiqués ont accepté de prolonger la convention collective actuelle jusqu'en 2031. Il n'y avait presque pas de demande de concession de la part des acquéreurs autre que de faciliter le rappel au travail des salariés, indique Marc-André Paris, représentant national pour Unifor. Au niveau des salaires, les nouveaux propriétaires honorent l'augmentation prévue en juillet dans la convention collective. Pour les années subséquentes, ce qui est prévu, ce sont des augmentations égales à l'IPC. C'est un scénario très positif dans les circonstances. Ils reconnaissent l'importance de garder les employés expérimentés. Pour Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, il s'agit d'une très bonne nouvelle pour l'ensemble de la communauté. On parle de 157 employés qui vont à terme regagner leur poste. Il y a aussi beaucoup de fournisseurs qui sont des entreprises locales. C'est un écosystème qui respire mieux. Madame Morin était présente au palais de justice de Lac-Mégantic pour entendre la décision du juge. « Je ne suis pas surprise, mais je suis toujours impressionnée de voir la volonté et la mobilisation qu'on est capable de générer localement », résume-t-elle. « On a de quoi être fier de cette relance. » C'était La relance de Bestar approuvée, une victoire pour Lac-Mégantic. Un texte de Simon Roberge publié le 13 mai 2026 dans La Tribune.